Sur votre feuille de route, vous voyez que il y a quatre parties après l'introduction et à la fin la conclusion. Il y a spécificité des sciences humaines, leur domaine, leur tâche et le sens manifeste et le sens caché. D'abord, quelles sont les sciences humaines? Eh bien, en dessous de leur domaine, vous avez les six sciences humaines que considère en général quelqu'un comme Ladrière ou d'autres. L'économie, l'histoire, la sociologie, la psychologie, l'ethnologie et la linguistique. Je ne peux pas évidemment m'apesantir sur chacune de ces sciences, mais elles ont en commun d'être appelées sciences humaines, parce qu'elles étudient l'homme. Introduction de quelques préjugés. Le flou et l'arbitraire. Les gens qui disent « nous, on est dans les sciences exactes », alors les sciences exactes regroupent à la fois les sciences formelles et les sciences empirico-formelles. Les sciences dures, comme on dit parfois. Les sciences dures, eh bien, ceux qui ont l'habitude de ces sciences ou qui admirent ces sciences disent « bon, bah, écoutez, la psychologie, à côté de ça, c'est vraiment pas une science dure, hein, une science molle. Hein. Pas de consistance, c'est flou, c'est arbitraire. On fait des théories, n'importe quoi, ça ne tient pas, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de vérification, etc. » Alors c'est vrai que nous sommes dans un domaine totalement différent des sciences dures, des sciences exactes, que ce soit les sciences formelles ou les sciences empirico-formelles. Mon expérience, c'est que moi j'étais un matheux, j'ai beaucoup aimé les mathématiques, j'ai fait pas mal de mathématiques. Et lorsque, après mon noviciat, il s'agit de faire des études, on m'a demandé de faire la psychologie. Je me suis dit, oh là là, ça c'est vraiment pas très intéressant. Hein. Je vais étudier la psychologie par obéissance jésuite, j'ai fait 5 ans de psychologie. Et puis je me suis un peu empressé de l'oublier parce que il y avait la philosophie qui était intéressante, la théologie, tout ça. Et puis, j'ai été obligé de reprendre la psychologie il y a une quinzaine d'années. Et je me rends compte, en fait, que, oui, la passion pour les sciences, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont, moi aussi. Mais dans la vie pratique, dans la vie quotidienne, dans la vie humaine, dans la vie profonde, spirituelle et tout, finalement, les maths et la physique pure, bon, ça peut procurer quelques satisfactions, quelques contemplations. Mais les sciences humaines, que sont par exemple l'histoire, que j'apprécie particulièrement, la linguistique ou la psychologie évidemment, nous apportent beaucoup plus sur la compréhension des choses, de l'univers. Alors l'univers, bien sûr, c'est les étoiles au fond du ciel, mais c'est aussi notre voisin, hein, nos enfants en crise d'adolescence. Ce sont aussi nos propres pulsions. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? Eh bien voilà, je trouve que, bon, on peut se passionner pour les sciences dures, mais ces sciences humaines ont quand même quelque chose de très, très intéressant au fond. Mais je crois qu'il faut peut-être plus de maturité humaine pour entrer vraiment dans une science humaine. Plus de maturité. Je constate simplement que, par exemple, de jeunes mathématiciens, il y en a beaucoup. Des gens qui ont donner des contributions extrêmement importantes aux mathématiques qui sont morts à 25 ans, à 30 ans, Riemann à 40 ans. Des jeunes historiens, on en trouve très peu. Pour être historien, il faut avoir étudié beaucoup l'histoire, avoir accumulé beaucoup de choses. Hein. La psychologie, c'est la même chose. Hein. Il faut avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de cliniques, etc., pour, après une certaine maturité, je crois, humaine, eh bien, vraiment entrer dans ce genre de sciences humaines. Voilà. La spécificité. Comme toute science, les sciences humaines prétendent objectiver l'être humain. Avoir un objet qu'on objective, et c'est l'être humain. Alors, objectiver une pierre, objectiver le soleil, bon, mais ça, c'est assez facile, parce que c'est un objet, c'est pas un sujet, mais objectiver un être humain, c'est objectiver un sujet. Mais pour que ce soit vraiment une science, il faut que le sujet soit objectivé. On ne considère pas l'autre comme un sujet, on le considère comme un objet d'étude. Donc il y a une réduction méthodologique. On n'entre pas en amitié avec lui, non. On entre dans une relation d'observation et d'objectivation. Donc c'est l'être humain mais sous un certain angle, sous un angle qui fait de lui un objet formel. Toutes les sciences humaines, en fait, eh bien, étudient l'homme, mais selon des points de vue différents. Alors voici, ça c'est une sphère, c'est l'homme. Alors imaginez-la en trois dimensions, eh bien voilà, le psychologue, il prend ce point de vue-là. Ça c'est le psychologue. Mais l'historien, lui, il a un autre point de vue qui est celui-là. Plus large ou plus je ne sais pas quoi, enfin voilà. Lui, il part d'un autre point de vue. C'est l'histoire. Alors peut-être qu'il y a une face cachée de l'un par rapport à l'autre, hein, une face éclairée de l'un par rapport à l'autre, mais peut-être qu'il y a aussi des... Si c'est par exemple la sociologie, il y a aussi peut-être des zones qui sont communes à plusieurs sciences humaines. C'est une image, mais pour dire que on étudie l'homme pas en général, on étudie l'homme sous un certain angle. L'angle de l'économie, de l'histoire, sociologie, psychologie, ethnologie, description des cultures, hein, ou linguistique. Donc, on prend l'homme sous un certain point de vue, et comme c'est une science, il faut que l'objet soit objectivé, et un objet c'est toujours quelque chose de sensible. L'objet est sensible, l'objet d'une science est sensible. Il donne au moins des signaux sensibles. Donc, par exemple, je vais étudier la psychologie à partir du comportement. Je ne vais pas regarder une personne en disant voilà, qu'est-ce que cette personne pense et tout ça. Non, je ne vais pas spéculer. Je ne vais pas non plus engager une discussion philosophique avec la personne. Je vais l'observer. Je vais lui poser des questions. Donc, il y a toujours une part sensible. Les sciences humaines s'appuient sur un matériel. Des enregistrements, des textes, des faits qui se sont passés. L'historien, bien sûr, ben, il a tout un matériel sensible. Mais en même temps, le sensible n'est que le signe de quelque chose d'humain. L'homme se comporte d'une certaine manière, mais il donne sens à ce comportement. C'est une caractéristique de l'être humain que d'agir selon des raisons. Il donne sens à sa vie, aux gestes qu'il fait. Et comme psychologue, ou bien comme sociologue, ou comme linguiste, j'essaye de percevoir, hein, supposons que ça c'est le linguiste, j'essaye de percevoir dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans les gestes, dans les symptômes, dans les signaux qu'il donne, j'essaye de percevoir quelque chose à l'intérieur de cet homme, de cet être humain. Voilà, donc il y a une objectivation, un point de départ qui doit être sensible. Je ne vais pas spéculer. On verra que c'est peut-être là quelque chose de plus philosophique. Mais si vous êtes dans les sciences humaines, vous devez apporter un matériau. Dire je travaille sur des statistiques. Je travaille sur un texte. Je travaille sur des faits qui se sont déroulés pendant la guerre. Voilà, il y a eu ça, 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 ça. J'en fais l'histoire et j'essaie d'en dégager le sens. Parce que toute activité humaine a un sens. Mais l'homme est à la fois sujet et objet de la science. Donc ça, c'est le problème. J'étudie l'homme, mais je suis un homme. Alors comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais soi-disant me mettre entre parenthèses pour être un scientifique. Hein, et je vais essayer de regarder l'être humain le plus objectivement possible. Mais d'une certaine manière, c'est impossible. Il y a déjà une détermination réciproque du sujet et de l'objet. J'aborde l'autre avec l'être humain que je suis. Le psychologue, quel est son instrument de travail? C'est son propre psychisme. Hein? Il entre en résonance avec le psychisme de l'autre. Et voilà, donc il y a une détermination réciproque. On ne peut pas étudier un être humain, que ce soit comme sociologue ou autre, comme j'étudie les neutrinos, comme j'étudie les bosons, etc. Parce qu'avec eux, je n'ai pas de rapport de réciprocité. Je ne détermine pas de la même manière, hein, il peut y avoir aussi des interactions, mais absolument pas de la même manière, je ne détermine pas le rapport entre un objet inanimé, ou même un objet vivant qui n'est pas humain, et moi-même. Donc pour étudier l'homme, il faut être un homme. Et dès lors, on a une pré-compréhension. On a une pré-compréhension de ce qu'est un être humain. Donc, si je veux étudier le protestantisme en France, par exemple, à telle période, en tant qu'historien, ou en tant que sociologue, ou en tant que psychologue des religions, ben, il faut plus ou moins que je sache ce que c'est la foi, que je sache ce que c'est le protestantisme par rapport au catholicisme. Il y a une pré-compréhension. Tandis que dans les sciences dures, cette pré-compréhension, elle est pratiquement inexistante. Je peux savoir qu'il y a de la matière et je suis de la matière, mais à part ça, il n'y a aucun rapport réciproque. Si je veux étudier une secte bouddhiste, à un niveau sociologique, ben je dis c'est une secte, il faut que je prouve que c'est une secte, ou bien j'ai l'impression que c'est une secte, bon, il faut au moins que je sache un petit peu ce qu'est le bouddhisme. Vaguement. Bien sûr, en faisant la recherche, je vais approfondir. Je vais essayer d'objectiver le plus possible, mais je pars avec une impression subjective. Le shintoïsme japonais, ben, il faut que j'aie rencontré des japonais et des shintoïstes. Sinon, comment est-ce que je vais faire? Bien sûr, au fur et à mesure de la recherche, disons, cette interaction devient de plus en plus une interaction contrôlée et riche. Mais il y aura toujours une interaction. Il y aura toujours une pré-compréhension qui devient une détermination réciproque. Et ce que je cherche en étudiant l'homme, c'est comment l'homme donne sens à sa vie. Si je cherche seulement à savoir comment il digère, comment il respire, ben je ne suis pas dans une science humaine. Même si c'est l'homme que j'étudie. Mais là, je l'étudie comme un être vivant. Donc je n'entre pas dans sa subjectivité, je ne m'interroge pas sur son vécu, sur sa manière de donner sens à sa vie. Mais je ne peux pas faire de l'histoire en comptant simplement combien il y avait d'êtres humains dans tel pays, à telle époque. Il faut que je dise qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils ont fait la guerre, pourquoi ils ont fait la paix, etc. Le domaine des sciences humaines. Eh bien, vous avez les six sciences dont je vous parlais. Alors, je vais essayer de marquer les différences d'abord entre les sciences empirico-formelles et les sciences humaines. Il y a un texte célèbre de Henri-Irénée Marou qui nous parle de Jules César. Alors, écoutez bien ce texte. À un instant du devenir de l'univers, qu'on pourrait repérer en se référant à la précession des équinoxes et au mouvement apparent de la Lune et du Soleil, en un point de la surface terrestre défini par les coordonnées X de latitude nord et Y de longitude est Greenwich, à l'intérieur d'un espace clos ayant la forme d'un parallélépipède rectangle, où se trouvaient rassemblés environ 300 individus mâles de l'espèce Homo sapiens, un nouvel individu appartenant à la même espèce pénétra, décrivant une trajectoire rectiligne. À l'instant T plus N, tandis que les autres individus présents oscillaient légèrement autour de leur position d'équilibre, 12 d'entre eux se mirent en mouvement, décrivant à une vitesse accélérée des trajectoires convergentes qui rejoignirent au point M la trajectoire du précédent. À l'extrémité préhensile des membres supérieurs droits des 12 mâles se trouvaient des pyramides effilées d'acier qui, grâce à la force vive, produisirent des plaies pénétrantes dans le corps du dit premier individu, entraînant sa mort. Voilà, ça c'est une description de quoi ? L'assassinat de Jules César. Bon. Pour un historien, c'est très intéressant ceci. Absolument pas. Ça, c'est pas de l'histoire. Ça, c'est une description empirico-formelle d'un fait historique très, très important. Mais avec ça, on ne sait rien du tout. C'est complètement extérieur. Il faut nous dire que, pas que la Lune et les étoiles, etc., il faut dire que c'est en l'an 44 avant Jésus-Christ. Ça nous permet de situer tout de suite ça dans l'histoire de l'Empire de Rome. Il faut dire que Greenwich et tout ça, on s'en fout, c'est Rome. Bon, c'est important. Le parallélépipède, c'est la Curie, les 300 hommes, c'est le Sénat. En style parlementaire, il y a des mouvements divers, il y a 12 hommes qui ont décidé de tuer Jules César, et bon, ils ont un poignard et ils le tuent. Alors, pour l'historien, la première description est complètement inutile. Alors, par parenthèse, souvent les neurosciences voudraient réduire des choses à des descriptions comme ça. Mais ce qu'il faut voir, qui est très important et qui est historique, c'est à la fois la singularité et l'intentionnalité. Ça, ce sont deux concepts fort importants qui sont indiqués ici, intentionnalité et singularité. Deux concepts très importants qui appartiennent constitutivement aux sciences humaines et qui sont complètement extérieurs aux sciences empirico-formelles. Donc, un individu mâle de tel âge et de telle époque, il y en a évidemment des millions, et l'un ne vaut pas l'autre. Jules César est un être singulier. S'ils avaient tué celui à côté, le sort de Rome aurait été différent. S'ils avaient tué un homme dans la rue, ça n'avait aucune importance. C'est parce que c'est Jules César. La singularité. Donc la singularité, ça veut dire quoi? Nous sommes ici tous des êtres humains, et si je dis il y en a 14 ou 22, je dis il y a des êtres humains particuliers au nombre d'un tel. Mais si je dis voilà la liste des noms, je fais état de leur singularité. Ce n'est pas simplement autant d'hommes, autant de femmes, les âges et tout ça c'est du particulier, c'est un vocabulaire très précis pour moi. Le particulier, ce n'est pas du tout le singulier. Le singulier, c'est du particulier défini de manière personnelle, qualifié de manière à ce que non seulement il soit reconnaissable parmi tous les autres, mais il surgisse avec sa singularité. Un tel est Jules César et l'autre est un manœuvre sur le chantier, et puis c'est tout. Et c'est très différent, pour la science historique en tout cas, de différencier cela. Et l'intentionnalité, parce que pour les sciences humaines, tous les gestes des hommes, toutes leurs paroles ont une intention. Ils font ça dans le but de. Dans les sciences de la nature, il n'y a pas d'intentionnalité. Au contraire, par méthode, on exclut la finalité des sciences empirico-formelles. Si moi je fais de la biologie en disant l'oiseau a un bec pour chanter, on dira quel scientifique complètement foireux, il n'a pas un bec pour chanter, il a un bec et il chante, puis c'est tout. Je ne peux pas dire qu'il y a une finalité. Et dans la théorie de l'évolution, très souvent, on met de l'intentionnalité dans les choses. Et les fourmis font ça pour aller là-bas, etc. Bon, c'est vrai qu'elles vont là-bas, mais quelle est leur intentionnalité? Beaucoup plus difficile à savoir que pour les êtres humains. Beaucoup plus facilement réductible à des mécanismes, à des instincts. Mais l'intentionnalité, alors là il peut y avoir des degrés bien sûr dans l'intentionnalité, votre chien a des intentionnalités, il a une certaine singularité en tout cas pour vous, peut-être pas pour les autres, mais il y a vraiment dans les sciences humaines la prise en compte de la singularité et de l'intentionnalité, ce qui est complètement exclu des sciences certainement physiques, chimiques, biologiques, psychologiques peut-être qu'on commence à voir aussi la psychologie animale, l'éthologie, etc. Donc là, c'est très important, là j'ai mis ça en gras d'ailleurs sur la feuille. Les sciences empirico-formelles, on étudie un donné sensible de la nature. Dans les sciences humaines, on étudie aussi à partir d'un donné sensible qui est dans la nature, d'accord. Mais quand on a le donné sensible des sciences empirico-formelles, on a tout. Tandis que dans les sciences humaines, on a un être qui est actif, qui est singulier et qui a des intentions. Et c'est cela que la science humaine étudie. Étudier les hommes, des êtres humains qui ne donneraient aucun sens à leur vie, je ne saurais pas faire beaucoup de sciences humaines. Alors les gens disent, oui, mais moi je cherche le sens de ma vie, ma vie est vide, je ne trouve pas le sens de ma vie. Ben oui, justement, ça c'est de l'intentionnalité. Dès qu'on sent qu'on doit donner un sens à sa vie, dès qu'il n'y en a plus et qu'on désire disparaître, c'est donc bien que l'intentionnalité tient l'homme debout. Différence entre les sciences humaines. Les sciences humaines elles-mêmes diffèrent assez fortement les unes des autres. Donc ce petit schéma déjà peut un peu l'expliquer. Bien sûr, il y a des chevauchements, il y a beaucoup de sciences intermédiaires. Eh bien, je vais étudier Jean de la Croix. Jean de la Croix, un monument à divers titres d'ailleurs. Je veux l'étudier. Quels sont les points de vue que je peux prendre sur lui? Si je prends ses poèmes, si je prends sa littérature et que je lis ça, et puis que je me mets en prière, et puis que je dis au Seigneur, donne-moi la grâce d'être comme Jean de la Croix, ou bien ici, vraiment, il a une grâce qui est rare, etc. Bon, mais je ne fais pas de la science. Je fais de la prière. J'entre en relation spirituelle avec quelqu'un. Et voilà, eh bien, j'utilise ces textes d'une certaine manière. Mais je peux évidemment utiliser ces textes d'une autre manière. Comment? Je peux dire, ce qui est tout à fait vrai aussi, que c'est un auteur espagnol du siècle d'or de l'Espagne, de la littérature espagnole, et qu'il a une langue merveilleuse. C'est incroyable, hein? Le vocabulaire qu'il a, la manière dont il s'exprime, etc. Bon, je l'étudie du point de vue linguistique, du point de vue littéraire. L'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez lire un livre de littérature sur Jean de la Croix et y trouver une inspiration pour votre prière. Mais celui qui a écrit ce livre-là, il a dû être attentif aux mots. Il a dû faire de la syntaxe, chercher au dictionnaire, voir si d'autres avaient utilisé ces images, etc. Donc, il prend un point de vue bien particulier. Je peux aussi étudier la psychologie de Jean de la Croix. Quand je dis, voilà, c'est un homme qui a été éduqué comme ça, et puis il a rencontré telle difficulté dans sa vie, puis il a été menacé, puis il a voulu rebondir, et puis bon. Alors, tout ça, c'est une autre manière encore de voir. Là, je vais chercher dans ces poèmes, non pas de l'inspiration pour ma prière, non pas un étonnement littéraire, mais je vais chercher, tiens, qu'est-ce qui était... son intention psychologique en faisant ou en subissant tout cela. Je peux aussi faire de manière plus générale, me dire, ben tiens, est-ce que la mystique de Jean de la Croix est vraiment compatible avec le message chrétien? Et j'étudie la psychologie, disons, induite par l'anthropologie chrétienne et celle qui est induite par son texte. Et je me dis, est-ce que c'est compatible ou est-ce qu'au fond, Jean de la Croix est un bouddhiste qui s'ignore, il n'a rien à faire dans la mystique chrétienne, bon, je peux m'interroger à ce niveau-là, c'est autre chose. Joseph Maréchal, par exemple, un jésuite, eh bien, a étudié la psychologie des mystiques. Je peux aussi faire comme Georges Morel, qui est aussi jésuite, et qui étudiait Jean de la Croix à un niveau philosophique. Il disait, mais quelle est, au fond, l'expérience humaine profonde de cet homme? Qu'est-ce qu'il a de commun avec moi, avec d'autres hommes? Est-ce que son langage est accessible? Est-ce qu'il donne sens à la vie? Alors là, je peux approfondir une réflexion plutôt philosophique sur Jean de la Croix. Quelle est sa métaphysique, au fond? Quelle est sa foi? Est-ce que derrière sa foi, il y a une métaphysique? Voilà, donc ce sont différentes manières d'approcher un même phénomène qu'est Jean de la Croix. Alors, Jean de la Croix, je ne peux plus sensiblement le toucher, mais il y a des écrits, il y a une trace sensible. Il y a d'autres livres de la même époque. Voilà donc l'indice sensible sur lequel je m'appuie pour essayer de déduire certaines choses. Alors, ces différentes sciences sont nées avec le temps. Dans la première science humaine, pourrait-on dire, c'est l'économie, qui est né au XVIIIe siècle en Angleterre, avec la réflexion sur l'argent, sur la monnaie, etc. On a commencé à faire des calculs, savoir pourquoi l'argent, le mauvais argent, circulait plus facilement que le bon argent, etc. Bon, voilà. Alors certains considèrent que l'économie est très mathématique, et qu'elle a des formules, etc. Oui, et donc, on conteste parfois que l'économie soit une science humaine. Pour moi, c'est vraiment une science humaine, parce qu'il suffit que le président des États-Unis trébuche en descendant de son avion pour que la bourse chute. Ou bien que, voilà, que tout à coup, c'est un autre président, le dollar va commencer à bouger. Les événements humains ont un grand impact sur l'économie. Alors bien sûr, on peut faire tous les calculs qu'on veut, mais les calculs, d'habitude, c'est pour essayer de maîtriser ou de profiter de la situation. Hein. Mais l'aspect humain est extrêmement présent. Comparer l'économie, et surtout l'économie politique, hein, à une physique, ben je crois qu'on est vraiment loin. Hein. Mais bien sûr, il y a bien sûr dans toute tendance, dans les économistes, il y a des gens qui croient qu'ils font des sciences pratiquement mathématiques, etc. Ils en font sans doute beaucoup, mais comme outil. Est-ce que c'est vraiment là le sens, hein, de l'économie, de la bourse? Est-ce que ça se trouve au bout d'une formule? Je ne crois pas. Quelle est la tâche des sciences humaines? Alors leur tâche, enfin leur méthode, si on veut, dans les sciences humaines, il y a un aspect formel. Il y a un aspect formel. Toutes les sciences humaines essayent de faire des calculs, hein, des statistiques, des matrices, des schémas relationnels, des génogrammes, enfin, on essaye de formaliser soit des nombres, hein, des quantités, des tendances, soit des relations. Alors les mathématiques, différents types de mathématiques, servent ici très utilement pour formaliser certaines choses. Donc il y a des sciences qui font beaucoup de statistiques, beaucoup de calculs, comme l'économie, mais aussi une certaine psychologie. En psychologie, la première année, on était assommé par un gros cours de statistiques en nous disant, attention, la psychologie, c'est scientifique. Hein. Voilà, on va faire des statistiques. Et puis finalement, je crois que les trois quarts ne faisaient plus jamais de statistiques dans leur vie après. Mais avant ça, la moitié avait été busée. Donc c'était quand même utile, hein, mais pas dans le sens où on allait, où on croyait. Hein. Et il y a comme ça beaucoup de sciences humaines qui présentent un aspect formel très apparent. Il y a un aspect formel, je ne nie pas du tout cet aspect. Hein. Il doit être là. Mais qui présente un aspect formel, on fait des tableaux, on compte, etc. Et je crois que souvent, eh bien, on découvre des choses que l'intuition immédiate ne pouvait pas découvrir grâce aux statistiques, grâce aux relations que l'on essaie de formaliser dans des schémas, etc. On peut les algébriser aussi. Mais cet aspect quantitatif ou surtout structurel, système de relations, eh bien, n'est pas le tout des sciences humaines, loin de là. Mais je vais quand même un peu développer l'aspect formel. Alors, prenons la linguistique. Vous savez que la langue est composée d'un dictionnaire et d'une grammaire. Ça, c'est la base. Hein. C'est composé d'un dictionnaire et d'une grammaire. Je prends le dictionnaire. Que veut dire le mot « oui » ? Pose la question, que veut dire le mot oui? Pardon? Ah oui, mais je voulais dire oui, Liège. Oui, Liège. Donc quand je dis oui, Liège, c'est la ligne de chemin de fer qui va de oui à Liège. Ah, bon. D'accord, ça va. Donc, souvent, un mot n'a pas de sens en lui-même, il a un sens en relation avec un autre mot. Que veut dire non?
C'est pas de synonyme, comme vous voulez.
Que veut dire non?
Le prénom.
Ah, non, prénom. Là, on sait ce que veut dire non si on dit non, prénom. Mais si on dit non, oui, non, ben, c'est un autre nom.
Nani.
Nani, hein, c'est autre chose. Donc, ça c'est Ferdinand de Saussure, dans sa grammaire généralisée, je ne sais plus quoi, qui a montré que les mots n'existent qu'en relation avec d'autres. Si vous prenez un dictionnaire, et que vous voulez avoir une définition, et que vous ignorez la langue, ben, premier mot de la définition, vous ne connaissez pas. Vous allez chercher ce mot. Ben, premier mot de la deuxième définition, vous ne le connaissez toujours pas. Évidemment, vous retrouverez le premier mot, hein. Alors vous dites, bah, il faut connaître le premier mot pour finalement connaître tout. Il n'y a pas moyen, hein, de connaître les mots si ce n'est en relation avec les autres mots. En fait, le dictionnaire, c'est un système de différence, d'opposition, de relation. Et les choses ne prennent sens que dans ce système d'opposition de relations. Puisqu'on disait oui, lui, non, etc., mon prénom, qu'est-ce que veut dire ya? Ya. Ça veut dire quoi, ya?
Ya,
ben yaka. Voilà, ça c'est un sens. Yanen. Ah bon, ben là on voit bien un peu ce que ça veut dire, yanen. Yati. Est-ce qu'il y a des Polonais ici? Yati, ça veut dire je tue. Ben oui. Il faut dire dans quel système on travaille. C'est le système néerlandais, polonais, français, géographique, nom, prénom. Donc voilà. Tous les mots sont toujours situés dans un ensemble relationnel. Et on peut donc étudier ces relations, les formaliser. De même, Lévi-Strauss, par exemple, en ethnologie, vous connaissez peut-être ses travaux, il a été observé des tribus, des peuplades, voilà, que nous connaissions moins. Il s'est installé là-bas, il a essayé de comprendre ce qui se passait. Et puis il a découvert qu'il y avait, entre autres, des tabous. Des tabous. Alors, qu'est-ce que c'est un tabou? Ben, c'est quelque chose dont on ne parle pas et qu'on ne fait pas. Parce que là, c'est interdit. Et notamment, il y a des tabous concernant les alliances matrimoniales. Ça veut dire, un garçon de telle tribu peut ou ne peut pas épouser une femme de telle autre tribu. Pour quelle raison? Alors là, il y a toute une explication que le léopard, un jour, a mangé une gazelle et que la gazelle est ressuscitée et puis est repartie de l'autre côté. Donc, vous voyez bien que on ne peut pas épouser quelqu'un de la tribu de la panthère si on est une gazelle, quoi, de la tribu des gazelles. Il y a un totem gazelle. Donc, il y a des tabous que les gens observent de manière très rigoureuse. Et quand on va chercher un peu derrière, eh bien, au fond, ce tabou que je vous disais, c'est par exemple, on ne peut pas épouser sa cousine parallèle. Ça veut dire dont les deux papas sont frères. Mais on peut épouser sa cousine croisée. Ça veut dire si le papa et la maman de l'autre sont frères et sœurs. Alors ça, c'est l'exemple simple. Or, génétiquement, juridiquement, etc., il n'y a pas plus de raison de croire qu'un mariage entre cousins croisés ou cousins parallèles est différent. Mais on se rend compte que quand on observe cette règle, très minutieusement, très scrupuleusement, il y a une circulation équitable des biens et des femmes. Donc ça circule. Alors on peut aussi faire les choses de manière plus compliquée. Et donc, je dirais, ce que l'on donne, lorsque le papa donne sa fille à l'autre tribu, eh bien, deux générations plus loin, cette autre tribu est obligée de donner une femme à cette tribu du papa. Et donc, ça fait circuler de manière équitable les biens, mais ça fait aussi des alliances entre les gens. Et donc, en fait, il a découvert que sous les tabous, il y a une pensée sauvage qui est très rationnelle, en fait. Il y a des règles très strictes, très rationnelles, qui guident toutes sortes de choses, sur l'alimentation, sur la sexualité, sur les parentés, sur les discours, qui peut parler, qui a raison, le plus âgé, le plus jeune, etc. Il y a beaucoup de règles comme ça dont on ne voit pas pourquoi. Nous, Européens, nous arrivons là et nous disons « Pourquoi? C'est ridicule, ça n'a pas de sens. » Mais si on voit le système dans lequel ça prend sens, eh bien, c'est toute une raison cachée qui fait fonctionner le système de manière efficace, de manière harmonieuse. Donc voilà, eh bien, l'ethnologie, grâce à Lévi-Strauss et à tant d'autres, nous montre que tous les peuples s'organisent à partir de règles plus ou moins explicites. Et il faut les découvrir pour en voir, je dirais, l'efficacité et la beauté. Alors quand on étudie cela, on n'étudie pas seulement, je dirais, un sens qui est donné et qui est tout fait, qui ne bouge pas, on étudie comment se constitue le sens, comment le sens est petit à petit constitué. Quand on écrit un dictionnaire, on découvre des choses, mais le dictionnaire évolue. Il y a des mots qui viennent d'autres langues, il y a des mots qui sont abandonnés, il y a des mots qui sont proscrits, etc. Donc tout ça évolue, aussi bien en ethnologie qu'en histoire, etc. On se rend compte qu'on ne fait pas l'histoire aujourd'hui comme on l'a fait il y a 50 ans. Il y a d'autres méthodes, mais il y a aussi d'autres présupposés plus ou moins idéologiques. Donc c'est la constitution du sens, c'est pas seulement un sens figé, mais c'est un sens qui évolue, qui non seulement se constitue, mais ne se constitue pas une fois pour toutes. La physique, on peut supposer qu'il y a 1000 ans, ben, les lois de la physique étaient les mêmes. Peut-être qu'il y a je ne sais combien de milliards d'années, pas, mais actuellement, à l'échelle de nos millénaires, les lois ne changent pas. Avec les sciences humaines, on voit que l'homme change. L'homme change, et il change, non pas par hasard, il change parfois à cause des sciences humaines. L'homme essaie de faire un autoportrait de lui-même, il dit, mais au fond, cet autoportrait, il n'est pas très beau, hein. Regardez hein, tout ce qu'il y a qui ne va pas, etc. Bon, après un certain temps, l'homme a changé. Il a essayé d'éliminer des choses qu'il n'aimait pas, ou bien de renforcer des choses qui lui plaisaient. Donc, l'homme, avec le temps, évolue, le sens de la vie. Il ne passe pas de blanc en noir et de complètement différent, non. Mais il évolue, il s'affine, il se contredit, etc. Grâce à l'évolution de l'homme, peut-être, mais aussi grâce à toutes ces sciences hein, qui affinent l'image de l'homme et qui lui font prendre conscience de certaines choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Alors, il y a l'aspect formel dont je vous ai parlé, que parfois les scientifiques, les sciences humaines essayent de renforcer, de souligner, pour dire nous aussi, nous sommes des scientifiques. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout là qu'il faut mettre l'accent. Et il y a l'aspect herméneutique. Alors voilà, ça c'est un aspect qui est propre aux sciences humaines, l'aspect herméneutique. Que veut dire le mot herméneutique? Ça veut dire interprétatif, interpréter. Découvrir le sens, découvrir les sens, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, voir en quoi cela fait sens, l'herméneutique. Alors on dit que le fondateur de l'herméneutique, c'est Schleiermacher, dont je vous ai déjà parlé tout au début du cours dans sa division entre sciences théoriques et pratiques, mais Diltay, un peu plus tard, a dit qu'entre les sciences empirico-formelles et les sciences humaines, il y a la différence entre expliquer le comment et comprendre le pourquoi. Dans les Naturwissenschaften, dans les sciences de la nature, on essaie d'expliquer, erklären. Tandis que dans les sciences humaines, Geisteswissenschaften, on essaie de comprendre, verstehen. C'est très différent. Expliquer et comprendre, c'est totalement différent. C'est deux démarches différentes. Voilà, Diltay a bien fait cette différence. On cherche le comment ça marche, les atomes, comment ça marche, etc. Mais quel sens ça a, qui est deux neutrons ou 17 ou 20, ben ça n'a aucun sens, c'est comme ça. C'est un donné. C'est un donné. Le donné de la nature n'a pas de sens en lui-même. Il est comme ça, c'est tout quoi. Tandis que le donné humain, il a un pourquoi. Une singularité, une intentionnalité. Les sciences humaines cherchent à comprendre le pourquoi. Alors Ricoeur met bien ensemble les deux choses. Quand on étudie un texte, eh bien on l'étudie de très près, comme si c'était un objet physique, si j'ose dire, en disant tiens, il a utilisé le passif, tiens, il y a trois fois le nous ici, et puis tiens, on abandonne le nous pour passer au vous, pourquoi etc. On est dans un style direct, indirect, c'est un peu comme les éléments formels du texte, mais on essaye d'expliquer plus pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. C'est l'aspect formel, expliquer plus pour mieux comprendre. Alors, la compréhension, l'herméneutique, c'est une question de qualité, c'est pas une question de quantité. Est-ce que vous avez compris Victor Hugo? Vous pouvez lire Victor Hugo toute votre vie et dire, c'est merveilleux, chaque fois que je le lis, je découvre de nouvelles choses. Vous connaissez Victor Hugo. Est-ce que vous que vous pouvez résumer en 10 lignes. Ouais, ça, c'est un peu différent. Hein, parce que c'est une singularité. Hein, c'est un monument. Donc, il n'y a pas moyen de résumer. Vous faites connaissance sans cesse. Vous trouvez sans cesse de nouvelles raisons de le comprendre profondément. Et donc, on peut dire aussi que sciences humaines et sciences en particulier formelles se distinguent un peu par la recherche des causes et la recherche des raisons. Alors ça, c'est une dualité conceptuelle très importante, les causes et les raisons. Les causes et les raisons. Quand vous voyez le comportement de quelqu'un, vous vous dites quoi? Quelle est la cause de sa maladie? Ben, si c'est une maladie physique, c'est peut-être parce qu'il a mangé quelque chose de mauvais, il est malade. Bon, c'est une cause. Mais peut-être que c'est une maladie psychologique, comme on dit. Hein? Alors, est-ce qu'il y a une cause? Oui, mais la cause, c'est une raison, ou une des raisons, hein? Plus que vraiment une cause. On est moins dans l'ordre des causalités que dans l'ordre des motivations. Les motivations. Et on comprend ces motivations. On ne les explique pas. Hein? C'est comme ça. Cette personne a peur, cette personne est téméraire, etc. On comprend ces raisons, mais on n'explique pas ces raisons. Alors ce sera de nouveau un grand débat avec les sciences, les neurosciences. Hein? Oui, mais les sciences vont expliquer les comportements des hommes. Je ferai un petit schéma à la fin si je n'oublie pas. Constitution active du sens. Donc voilà, quand vous allez chez le psychologue parce que vous avez une souffrance, un problème, etc., vous racontez votre enfance, vous ne la racontez pas comme quand vous aviez 5 ans. Hein. Vous la racontez maintenant que vous avez 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, et chaque fois ce sera une autre histoire. Pourquoi ? Parce que vous jugez autrement les choses. Hein. Le sens que vous donnez aux choses, vous dites, oui, ben ça, c'était pas important, hein, c'était pas important du tout. 10 ans après, vous dites, ah non, ça, c'est très important. En fait, je suis passé à côté. Hein. Je me suis pas rendu compte que ma mère, ou que mon père, ou que mes frères, je sais pas quoi. Et on découvre le sens, et donc, il y a une évolution du sens, une constitution du sens. Même chose avec l'histoire. L'histoire aussi est un très bon exemple, je crois. L'actualité, nous recevons les faits. Tiens, il y a une guerre qui éclate ici, tiens, il y a un dictateur qui monte là-bas, etc. On voit les faits. Comment est-ce qu'on peut les comprendre? Il y a sans doute 1000 raisons en dessous de ces faits historiques. On en perçoit une ou deux ou trois, on simplifie, mais il y en a peut-être beaucoup plus. Avec le recul du temps, on comprendra mieux ce qui se passe hein, dans tel et tel pays européen aujourd'hui. Mais parce qu'on l'élargira aussi à toute l'Europe, et au monde entier, et à la culture, etc. Donc la constitution du sens, et on comprend d'autant mieux qu'on se réfère à d'autres sens. Donc on comprend mieux notre propre psychisme, hein, ou un fait politique, par exemple, si nous le référons à d'autres données psychologiques. Pas seulement moi, mais ma famille. Pas seulement ma famille, mais mon milieu. Pas seulement mon milieu, mais ma religion. Donc, on comprend d'autant mieux le sens qui est donné qu'on parvient à le référer de manière significative à d'autres sens. Donc, il y a une multiplicité de sens. Je prends l'exemple de l'assassinat politique. Eh bien, quel sens a un assassinat politique? Ben, ça dépend qui parle. Pour les terroristes, c'est l'acte suprême de la justice révolutionnaire. Donc, c'est parfait, c'est très bien. Mais c'est un sens. Oui, c'est un sens. Ah non, 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 c'est pas le vrai sens. Ah ben, pour eux, c'est le vrai sens. C'est évident. Et si on ne tient pas compte de ça, on ne pourra pas non plus nous créer, nous forger une idée sur le sens de ce que ça. Pour le gouvernement, c'est un crime. D'accord. Pour telle ou telle partie, ah non, c'est pas seulement un crime, c'est une tendance dans la population, c'est un électorat potentiel, ou c'est autre interprétation. Hein. Tel ou tel homme politique, plus ou moins historien ou non, hein, plus ou moins économiste ou non, peut l'interpréter autrement. Oui, c'est des gens pauvres. Hein. ou bien c'est des gens qui viennent d'ici ou là, hein, ou qui ont telle religion, ou telle idéologie. Donc en fait, dans un fait humain, il y a beaucoup de sens. Non seulement les différentes sciences peuvent les étudier, mais nous-mêmes, nous pouvons dire tel acte politique, ben, je lui trouve 4, 5, 6 sens. Et en fait, quel est le bon ? Ben, il n'y a pas de bon et de mauvais, il faut les prendre tous ensemble. Ils font tous sens. Il y a une intentionnalité terriblement variable. Nos références sont souvent établies sans que nous le sachions, nous n'avons pas beaucoup réfléchi, on voit un fait et on dit « Ah oui, c'est encore ceci, oui, mais j'aurais bien dit, avec un tel, ce sera toujours comme ça. » On a un sens, hein. On interprète, et en fait, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faudrait essayer de mettre en corrélation avec ça, pour saisir le sens profond. Je crois que les sociologues, hein, les historiens font cela. Il essaie d'établir des corrélations entre beaucoup de facteurs et de multiplier les sens ou d'augmenter la richesse du sens. Voilà, je dirais que l'analyse scientifique est d'autant meilleure que il y a un plus grand nombre de sens qui sont mis en avant, étant concurrents, antagonistes, ou bien parallèles, ou bien s'appuyant les uns les autres, et bien sûr qu'on explicite les raisons hein, de cette constitution de sens pour chaque personne, chaque partie, etc. Et donc, l'interméneutique, c'est de comprendre le mieux possible toutes les références qui permettent de faire émerger un sens et de les orchestrer, de les organiser. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire, par exemple, un livre sur Napoléon ou un livre sur un grand homme. Quand vous lisez ça, enfin moi en tout cas, je suis toujours étonné hein, de la multitude d'indices qu'on peut faire valoir pour ce bonhomme en particulier, mais aussi pour sa société, pour l'histoire du millénaire carrément. Hein, on comprend en profondeur. Alors c'est pas une accumulation hein, de formules, c'est une pénétration de plus en plus grande du sens et des sens que cet homme a donné à l'histoire. Et donc je dirais que lorsque vous avez un grand nombre d'indices, supposons qu'en faisant votre analyse, vous avez les indices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, avec des relations entre eux. Hein. Ceux-là sont parallèles, hein, ceux-là sont opposés. Hein, celui-là est tout à fait singulier, celui-là il est banal, celui-là il est etc. Vous avez une série d'indices. Quelle est la meilleure interprétation du texte ? Eh bien, il y a l'interprétation A qui se contente, je dirais, eh bien, d'expliquer à partir des deux premiers indices. Et les autres indices, bon, ils sont là par hasard, on ne sait pas pourquoi, l'auteur a fait une erreur, je ne sais pas ce qu'il racontait, etc. Bon. Mais je peux avoir une interprétation B qui prend davantage d'indices, qui donne sens à l'indice 3, 4, 5, 6, dans une tension, bien sûr, hein, mais qui donne sens à cela. Mais c'est vrai que cette interprétation B laisse encore de côté l'indice 7 et l'indice 1, 2. Et on dira que ces interprétations sont opposées. Quelle est la bonne, quelle est la meilleure ? À mon avis, elles sont sans doute ni bonnes ni mauvaises en soi, mais celle-ci est quand même meilleure que celle-là, parce qu'elle intègre plus d'éléments expliqués, compris, à partir de cette interprétation. L'idéal de l'interprétation, c'est évidemment de rendre raison de tous les indices qu'on a remarqués. Hein, de tous les indices qu'on a remarqués. C'est un travail que l'on fait en exégèse, par exemple. Hein, ou bien lorsqu'on analyse un poème. En exégèse, on prend un texte et on essaie de dire, d'abord on lit le texte, puis on dit, tiens, ça c'est difficile, ça je comprends pas, pourquoi il a choisi ce mot-là, hein, pourquoi est-ce que cette phrase est construite comme ça, pourquoi est-ce que on fait allusion tout à coup à Isaïe alors qu'on est dans le Nouveau Testament, pourquoi est-ce que Saint Matthieu a dit une chose et Saint Luc dit une autre, enfin, on repère toute une série d'éléments, d'indices, et puis, Et puis, alors, on est perdu d'habitude, hein, quand un étudiant doit faire un exposé d'écriture, bon, en ce moment, il est perdu. Il y a trop d'indices. Il y a trop d'indices, ils sont contradictoires, ils sont éparpillés, on ne sait pas quoi faire avec ça. Et puis, on continue à lire, on continue à repasser dessus, puis tout à coup, pchit, on a un insight, supposons, hein. On a une intuition, on dit, mais tiens, ces trois éléments-là, je peux en faire quelque chose. Et même le quatrième. Et puis, petit à petit, ça prend sens, un sens global, un sens général. Et alors, quand vous avez bien expliqué le texte, si on veut, bien, vous le comprenez et vous pouvez communiquer aux autres ce que vous avez compris. Dès que quelqu'un vous fait une objection, oui, mais ceci, vous avez une réponse. Elle n'était pas exhaustive, mais vous avez une réponse. Vous avez résolu ce problème d'une manière ou d'une autre, hein, plus ou moins profondément. Il y a des réponses qui sont superficielles, tout en étant bonnes, mais il y a des autres qui sont plus profondes. Hein. On voit que vous avez mieux pénétré la pensée, parce qu'en dessous de l'indice, en fait, vous avez aussi peut-être de l'extra-textuel, hein, ou de l'extra-historique, ou de l'extra-linguistique, vous utilisez les langues, etc. Voilà. Donc, pour le psychologue, pour l'historien, le sociologue, etc., l'interprétation idéale, c'est celle qui parvient à faire un réseau maximal de sens dans un système de référence le plus large possible. Le plus large possible. Et c'est là que je prenais l'exemple de l'interprétation d'un texte biblique tel que les exégètes le travaillent. Alors, dernier point capital. Puisque maintenant, si il y avait une chose à retenir de ce que j'ai dit, c'est herméneutique. Interprétation, hein, qui n'a pas du tout dans les sciences empirico-formelles et formelles. L'interprétation du sens. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est le sens caché. Alors là, c'est vraiment une découverte, je crois, hein, des sciences humaines. Il y a le sens manifeste. Bien sûr, l'assassinat politique, les uns diront c'est très bien, les autres diront c'est très mal, d'autres diront je ne sais pas quoi. Mais tout ça est encore relativement représentable et conscient, dans des consciences bien sûr très, très opposées, très différentes. Mais il y a, disent les personnes des sciences humaines, il y a aussi un sens caché. Il y a le sens manifeste et il y a le sens caché. Alors c'est peut-être en psychologie qu'on a commencé à travailler dans ce sens-là, l'interprétation des rêves de Freud. Bon, quel est le sens d'un rêve ? Eh bien, il a un sens. Mais non, c'est absurde un rêve. Oui, oui, c'est absurde, mais c'est absurde selon la logique de l'inconscient qui a quand même certaines lois, hein, et grâce auxquelles on peut découvrir un sens caché. Je ne vois pas du tout le sens de mon rêve. Eh bien, discutons un peu, blablabla, et puis à ce moment, on dit, oui, mais c'est vrai. Hier, j'ai parlé de ma tante, et j'ai vu ma tante avec une barbe dans mon rêve. Ma tante n'a pas de barbe, mais quand même, j'ai vu ma tante. Ah, pourquoi est-ce qu'elle avait une barbe maintenant ? Je cherche pourquoi elle avait une barbe. Mais il y a eu une condensation, parce que, je ne sais pas, son mari a une barbe, ou bien quelqu'un avait une barbe dans le problème que ma tante avait il y a peut-être même 10 ans ou 20 ans, hein, et tout à coup j'ai condensé, mon inconscient a condensé. Des déplacements, je vois un chien, et puis dans mon rêve je vois un cheval. Donc il y a des choses qui se cachent. Derrière le sens manifeste, j'ai vu un chien, eh ben, derrière il y a un cheval en fait. Donc l'idée qu'il y a un sens manifeste et qu'il y a un sens caché. Et le sens caché vient souvent de l'irrationnel, de l'inconscient comme je vous disais. Parce que l'homme est un animal raisonnable, mais il est quand même encore un peu animal, hein, donc il y a encore beaucoup d'irrationnel, et peut-être même que l'irrationnel n'existe que parce qu'il est raisonnable. On fait la différence parce qu'on a le référent de la raison. Eh bien, les sciences humaines mettent en avant tout ce que l'homme est, tout le sens qu'il donne à sa vie, et aussi, de temps en temps, tout le non-sens qui reste dans son comportement, dans sa vie. Les sciences humaines vont gratter en dessous, hein, pourquoi est-ce que Napoléon ceci, cela, pourquoi est-ce que l'économie ceci, cela. En réfléchissant, on vous donne une interprétation complètement différente. Et vous dites, non, mais qu'est-ce que vous allez chercher là, hein? Non, mais ça, c'est absurde. Non, mais là, vous voulez vraiment vous foutre de sa poire, quoi, hein. Mais en y réfléchissant un peu, vous dites, mais au fond, il avait raison, hein. Il y a aussi de ça dans ce comportement. Il y a aussi de l'irrationnel. En économie, en histoire, en linguistique, en psychologie, en ethnologie, il y a un irrationnel qui se cache. Parce qu'il n'y a pas seulement des sens multiples qui sont tous rationnels, il y a aussi là, la multiplicité des sens se manifeste aussi dans le fait qu'il y a des sens cachés. Des sens qu'on n'a pas envie de voir. Des sens qu'on n'aime pas. J'aime pas entendre parler de ça. Hein. Oui, mais vous, vous êtes comme ça parce que vous êtes un bourgeois. Hein. Et la structure de la société, ben, c'est les bourgeois qui ont fait des lois pour protéger leurs privilèges. Non, 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 les lois sont justes, etc. On a bien réfléchi au Parlement, tout ça. Les lois sont justes. Oui, oui, mais Marx dit quand même que on peut soupçonner. On peut soupçonner en dessous du sens évident, un sens caché. Ouais, c'est pas très confortable, non, qu'on vienne nous dire des choses comme ça. Mais quand même, Nietzsche aussi, hein, ce sont les maîtres du soupçon, comme on dit. Nietzsche aussi vient en disant, votre comportement, là, ben, vous êtes bien généreux, bien gentil, etc. En fait, vous aplatissez, quoi. Vous êtes une carpette. Hein. Vous dites oui à tout le monde, vous êtes généreux, vous progressez vers la sainteté. Oui, sainteté, ça veut dire que vous n'êtes pas assez courageux, hein, pour dire non, pour dire oui. Et voilà, votre spiritualité, votre je ne sais pas quoi, eh bien en fait, quand on regarde, c'est du ressentiment, c'est de la faiblesse, etc. Bon, vrai, faux, vrai, faux. Il y a certaines fois où on a envie de dire, mais c'est quand même un peu vrai, hein, quand même un peu vrai. Évidemment, avec les maîtres du soupçon, comme on dit, Marx, Nietzsche, Freud, ils ont un peu jeté le soupçon sur le sens de la vie humaine, au niveau économique, au niveau de la politique, hein, au niveau de la sexualité, etc. Alors, que vont faire les sciences humaines? Choisir l'un contre l'autre? Pas du tout. Combiner les deux. L'idéal, ce serait, mais là, évidemment, la science humaine doit aussi faire un effort, hein, ne pas seulement s'amuser à détecter le sens caché et à ruiner, hein, le sens manifeste et rationnel de l'homme, mais montrer comment, malgré le hiatus entre l'intention tout à fait sincère et tout à fait généreuse de l'homme et ses motivations cachées et peut-être pas aussi respectables, etc., et il y a une combinaison. Et l'homme est cela. Un mélange de rationnel et d'irrationnel. Et ça aussi, je crois, c'est une chose intéressante à découvrir. Les sciences humaines nous ont fait découvrir que l'homme n'est pas que rationnel, il est aussi irrationnel. Et ça, de nouveau, c'est une grande différence avec les sciences de la nature. Dans les sciences de la nature, il n'y a pas d'irrationnel. Il faut que ça marche comme ça, les lois sont là, inflexibles, etc. C'est avec la raison que vient l'irrationnel. Et qu'est-ce que c'est que cet être humain qui est à la fois rationnel comme il le manifeste et irrationnel comme il le cache un petit peu en dessous de ses comportements? Alors, dernier petit schéma et puis une conclusion. Je crois qu'avec la physique, on a évidemment une science qui étudie la matière. Avec la chimie, bon, on progresse. Avec la biologie, on a évidemment une matière vivante qui est de plus en plus perfectionnée, si on veut, avec la zoologie, etc. Avec les sciences humaines, on étudie l'homme. Et certaines sciences dures, sciences chimiques, biologiques, neurosciences, etc., prétendent que, eh bien, à partir de ceci, on pourra expliquer aussi l'homme dans ses comportements les plus sublimes, les plus rationnels, les plus intéressants, etc. Et donc, il suffit d'un peu de patience pour monter cette échelle. D'abord, je crois que, sur mon schéma, hein, et c'est à peu près la même chose ici, je crois qu'il faudrait mettre les sciences humaines, enfin, en tout cas l'homme plutôt, hein, l'homme, bien plus haut que simplement la matière vivante ici. La proportion, à mon avis, est énorme. Les médiations pour passer de la matière vivante à l'homme tel qu'il est aujourd'hui est énorme. Et si en physique on dit que c'est un univers très compliqué, qu'il y a je ne sais combien de dimensions à l'univers, il n'y a pas seulement 3 ni 4 mais 17, je ne sais pas combien, hein, dimensions irréductibles les uns aux autres, dans l'homme il y a des centaines de dimensions, de paramètres qu'il faut mettre ensemble. Donc ici on a une complexité beaucoup plus grande. À mon avis, l'atome, même avec toutes ses complications, est beaucoup plus simple que n'importe quel être humain, évidemment. Alors c'est normal que le scientifique des sciences humaines donne l'impression d'être un peu dans le flou, de travailler à la grosse louche, etc. Mais son objet est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et je crois quand même que les sciences humaines nous ont fait percevoir cette richesse de l'homme. Ce n'est pas seulement une complication, je dirais, malheureuse, c'est une richesse. Une richesse énorme. Mais dans tout cela, et c'est la transition vers le cours prochain, dans tout cela, le scientifique, le vrai ou pseudo-scientifique, il s'est mis à distance comme s'il n'avait aucun point de vue et comme s'il était le savant universel. Donc, les historiens disent, les économistes disent, bon, il y a un sujet là, un sujet savant, omniscient même, semble-t-il, qui décrète que l'homme est comme ceci, comme cela, mais les gens ne s'impliquent pas là-dedans. Bon, ils s'impliquent un petit peu avec leur amour propre en disant « c'est moi qui ai écrit ce bouquin, etc. » Mais ce que j'ai écrit est totalement objectif. Vous pouvez le vérifier, vous pouvez faire les mêmes expériences, vous arrivez aux mêmes conclusions. Moi, je suis un observateur complètement... Ma singularité n'intervient pas. J'étudie la singularité, mais ma singularité n'intervient pas. Je suis un scientifique neutre, parfaitement objectif, puisque je suis le sujet qui objective l'être humain. Eh bien, c'est là que, justement, il y a un grand point d'interrogation qu'il faut se poser. Quel est le statut du jeu du scientifique ? Bien sûr, il travaille avec son jeu, mais il le met complètement en parenthèse constamment. C'est évidemment plus visible en mathématiques. C'est visible ici. Dans les sciences humaines, c'est moins visible, mais il veut quand même être objectif. Il veut être neutre. Il fait tout ce travail en se considérant comme capable d'avoir un point de vue de nulle part, ou un point de vue absolu, c'est la même chose. Alors justement, le philosophe est celui qui va s'interroger sur cette subjectivité de l'agent connaissant. Il y a de nombreuses interprétations, variées, en conflit, les unes avec les autres, en émulation, les unes par rapport aux autres, qui sont irréductibles. Le point de vue de l'historien, le point de vue du psychologue, il n'y a pas moyen de dire on va faire une science qui réunit les deux, non ? C'est des points de vue bien différenciés. Mais comment est-ce que le je singulier que nous sommes, le philosophe que chacun est, va se situer vis-à-vis de tout ça ? Eh bien, ce sera l'objet donc de la prochaine leçon. Qu'est-ce que la philosophie par rapport à toutes ces sciences ? Qu'est-ce que la philosophie peut encore faire quand on a dit tout ça ? Beaucoup de gens pensent d'ailleurs que la philosophie est une science humaine comme les autres, et que voilà, c'est un point de vue de plus. Mais je ne crois pas. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. La philosophie n'est pas une science humaine. Elle a une spécificité que je vais essayer de vous expliciter la prochaine fois.